Genèse chapitre 50, versets 15 à 21. Genèse chapitre 50, versets 15 à 21. Au nom de Jésus. Les frères de Joseph se dirent : Maintenant que notre père est mort, Joseph pourrait bien se tourner contre nous et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils firent donc parvenir à Joseph ce message. Avant de mourir, ton père a exprimé cette dernière volonté. Dites de ma part à Joseph, par pitié, pardonne à tes frères la terrible faute qu'ils ont commise, tout le mal qu'ils t'ont fait. Eh bien, veuille nous pardonner cette faute à nous qui adorons le même Dieu que ton père. Joseph se mit à pleurer lorsqu'on lui rapporta ce message. Puis ses frères vinrent eux-mêmes le trouver et se jetèrent à ses pieds et lui dirent : Nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit : N'ayez pas peur. Je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. N'ayez donc aucune crainte. Je prendrai soin de vous et de vos familles. Et par ces paroles affectueuses, il les réconforta. Amen. Comme on vient de le chanter tout à l'heure, la parole de Dieu est comme un souffle fragile, mais cette parole de Dieu aussi, elle est fracassante en même temps. Comme le thème que nous allons observer ce matin, pouvoir et responsabilité. Quand j'ai lu ce texte, j'ai pensé au célèbre film qui a cartonné, Le Seigneur des Anneaux. Vous allez peut-être étonné pourquoi je dis cela. Pour résumer un peu le film, un jeune hobbit nommé Frodon Sacquet hérite d'un anneau. Mais il se trouve que cet anneau est l'anneau unique. Un instrument de pouvoir absolu. Créé par Sauron et le Seigneur des Ténèbres pour lui permettre de régner sur la terre du milieu et de réduire en esclavage ses peuples. Voilà, c'était la quête du pouvoir. La quête du pouvoir pour dominer et faire asseoir son autorité sur les autres, allant même à les réduire à l'esclavage. Si je fais ce petit clin d'œil, là, de l'autre côté, c'est à cause des versets 18 et 19 de notre texte. Je vais relire ces deux versets. « Puis ses frères vinrent eux-mêmes le trouver et se jetèrent à ses pieds et lui dirent « Nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit, et j'ai bien aimé cette réplique, « N'ayez pas peur, je n'ai pas à me rendre à la place de Dieu. » Voyez. Je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Joseph, lui, il n'avait pas pris le pouvoir que le Pharaon lui a octroyé pour broyer et faire disparaître ses frères ennemis. Pourtant, il a de bonnes raisons de le faire. Ils lui ont fait beaucoup de mal. Ils l'ont vendu comme esclave. Et pour comprendre ces phrases, je crois qu'il faut qu'on fasse un petit récapitulatif de l'histoire pour certaines personnes qui ne connaissent pas bien l'histoire de Joseph. Le rapport que Joseph avait avec ses frères, les fils de Jacob. Jacob avait 11 fils avant que Benjamin soit né. C'était Benjamin le dernier. Joseph était le cadet. C'était le petit chouchou de son père. on va dire peut-être le préféré de Jacob. Et il est dit qu'il l'aimait plus que tous parce qu'il l'avait dans sa vieillesse. Et il lui donna même une tunique de plusieurs couleurs. Et c'est bien précisé, de plusieurs couleurs. Donc, il avait une place importante. Alors, la haine commença déjà à prendre place au sein de cette fratrie. Mais ce qui a encore envenimé la situation, ce sont les songes de Joseph, qui en gros révéleraient que ses frères vont devoir se prosterner devant lui plus tard, car il règnera sur eux. Et c'est ça qui a encore alimenté la haine qui était déjà présente. Imaginez un peu la colère qui montait chez ces frères-là. C'est compréhensible, c'est humain. C'est alors que les grands frères, usés de leur force, leur avantage en tant que grands frères, ils utilisaient leur pouvoir pour se débarrasser de Joseph en le jetant dans une citerne vide. Et après, ils l'ont vendu aux vendeurs d'esclaves d'Égypte. Là déjà, nous voyons le peu de pouvoir qu'ils avaient. Ils les avaient utilisés pour assujettir leurs propres frères. Ils savaient que ce Joseph n'était que leur petit frère. Il n'était rien du tout face à eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Leurs visions ont changé. À cause de la jalousie, de la haine mélangée, ils ne voyaient plus en Joseph leur petit frère, mais ils voyaient en Joseph une menace. Vous voyez? La jalousie et la haine, quand ces deux choses sont réunies, on change de vision sur la personne. Une personne que nous avons tellement aimée devient une menace. Le rapport et le lien ont carrément changé et faussé à cause de ce sentiment de domination. Il croyait que Joseph voulait dominer sur ses frères. Donc il fallait s'en débarrasser. Il se sentait inférieur à lui. Pourtant, ils sont censés être les plus grands, les plus forts. Et là, ça a touché dans leur orgueil d'homme. C'est un peu comme ce que disait cet athlète français, Pierre-Ambroise Bosse, vous le connaissez peut-être, qui venait d'être juste consacré champion du monde en 800 mètres, la nouvelle fierté française. Et quelques semaines plus tard de son sacre, il a été tabassé par des individus qui sortaient d'une boîte de nuit. Il a subi de multiples fractures au visage, il a failli mourir. Le champion du monde, le nouveau champion du monde. Et lors de son interview, ce qui m'a marqué dans sa réponse au journaliste, ce qu'il ressentait après cette attaque, voici ce qu'il a dit. « J'étais touché dans mon orgueil d'homme et que même si je suis un champion du monde, je suis assez vulnérable. » J'ai pris note, parfois il y a des phrases comme ça, ça m'intéresse, et j'ai pris note. Je dis peut-être j'en aurai besoin plus tard, et voilà, je me suis dit, ah tiens, j'étais touché dans mon orgueil. C'est pas les blessures, mais le fait d'être champion du monde, et tout à coup, je suis vulnérable. Et ce sentiment-là, qui lui a beaucoup fait mal, en plus des blessures. Lorsqu'on touche à ce qu'on croit être notre point fort, et qu'une autre personne ait pu me déstabiliser dans mon point fort, ça fait plus mal que les coups. L'histoire de Joseph nous donne une réflexion extraordinaire dans notre façon de se comporter vis-à-vis d'un quelconque pouvoir quand on a sur des individus, ou sur la famille, ou dans le domaine professionnel. Lorsque Joseph a accédé au pouvoir en devenant premier ministre de l'Égypte, comment il s'est comporté, Joseph? avec les songes que Dieu lui a donné, ce don magnifique qu'il avait, il l'avait utilisé pour le bien de toute l'Égypte, en collectant et en faisant un grand stockage de nourriture pendant 7 années, 7 années d'abondance, en prévision des autres 7 années de vaches maigres. Et cette attitude de Joseph a une répercussion positive plus large, car des personnes des autres nations sont venues plus tard, lors de la période de la famine, chercher un secours alimentaire auprès du Pharaon, grâce au songe de Joseph. C'est pour cette raison que Jacob et ses fils sont arrivés en Égypte pour acheter des vivres. Et là, il est tombé nez à nez avec ses frères. Mais cette fois-ci, la situation est différente. Il est en position de force, Joseph. Il est le numéro 2 de l'Égypte, le second du Pharaon. Et nous savons très bien ce que ça veut dire, numéro 2 du Pharaon. Le Pharaon était le dieu d'Égypte. Il était, on va dire, un demi-dieu. Et ses frères étaient des réfugiés économiques, si on peut le dire. Donc, ils étaient à sa merci. Les pleins pouvoirs que Joseph avait entre ses mains, comment le vit-il avec ? La force et le pouvoir qu'il avait, il voyait cela autrement. Puisque ces derniers craignaient pour leur vie, et ils étaient même obligés, poussés à même mentir au nom de leur père Jacob qui est décédé, vous voyez ? C'est encore pire, non seulement ils ont trahi leur frère, non seulement ils l'ont vendu en esclave, mais ils ont encore rajouté une couche, ils ont menti. Que voilà ce que Père nous a dit. Pourtant, il ne l'a pas dit. Et Joseph, lui, le visionnaire, encore une fois, de plus en plus humble, il voit autrement la situation. Il dit ceci: vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Voyez sa vision, verset 20. En d'autres termes, Dieu a déjà tout planifié. Et dans son plan original, s'il m'avait donné ces songes, que plus tard vous allez vous prosterner devant moi, ce n'est pas dans le but de vous écraser. Ce n'est pas ça. Non, pas du tout. Mais pour que ce mal, c'est-à-dire non seulement l'attitude des frères, mais aussi le mal en général, y compris la famine, qui allait frapper toute la région, Dieu a voulu m'emmener ici pour vous, pour Israël. Il a déplacé l'accent du mal. Le mal, ce n'est plus l'acte que les frères ont fait. Le mal, ici, c'est la famine. Vous voyez comment il a changé de vision. Et c'est pour cette raison qu'il a bien souligné: je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Il ne demande ni ne souhaite à ses frères de se courber devant lui, mais qu'il soit leur protégé. Et ils deviennent sous sa protection. Vous voyez ici, le pouvoir, la force, appelle à la responsabilité envers les autres, envers les plus faibles. Et cette ligne d'idées-là est toujours omniprésente dans la Bible tout entière. Je vais vous donner quelques exemples. Si Dieu appelle l'enfant à obéir ses parents, ce n'est pas parce qu'à la suite du commandement, ce n'est pas un sentiment de soumission. Mais vous allez voir ce qui est dit dans Deutéronome 5,16: « Respecte ton père et ta mère comme je te l'ai ordonné, afin de jouir d'une vie longue et heureuse dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. » Jouir d'une vie longue et heureuse n'est pas un cadeau donné en retour pour une obéissance, non. Mais cela reflète que tes parents, avec ce pouvoir que Dieu lui a donné, a pour mission de prendre soin de toi. Même chose aussi pour le couple. Si Paul dit: « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le mot « chef » ici a un sens de « responsable ». Comme le Christ qui a donné sa vie pour l'Église. Le Christ est responsable de l'Église. C'est pour ça qu'il est à la tête de l'Église. Non pas pour l'écraser, mais pour s'en occuper. La seigneurie du Christ, parfois, est mal comprise par ceux qui se déclarent antichrist. Quand on voit toutes ces petites vidéos sur YouTube, les gens qui lancent des réflexions que le Christ est presque un dictateur, qui nous demande l'obéissance, car ils pensent, ces gens-là, que le Christ nous écrase par le poids de ce mot « Seigneur ». Parfois, le mot « Seigneur » ne nous convient plus pour notre époque. Le mot « Maître », et on veut commencer à changer cela même dans d'autres versions de la Bible. La seigneurie n'est plus de notre époque, c'était avant. Mais c'est normal qu'ils réagissent ainsi car ils sont dans un répertoire classique. Le chef, le maître, le patron sont des mots très difficiles à entendre. Mais ce qu'ils ne savent pas, si le Christ est le chef de l'Église ou qu'il est là à la tête de son Église, c'est parce qu'il a donné sa vie pour elle. C'est ça être le chef. Donner sa vie pour elle. Alors la question que je vous pose, et soyez francs envers vous-même, te sens-tu écrasé? Te sens-tu soumis quand tu prononces « Ô Seigneur, mon Maître Jésus ?» Quel est le sentiment que tu as quand tu pries « Seigneur Jésus » Est-ce juste une formule? Ou bien te sens-tu en sécurité, protégé? Quand tu dis « Seigneur », ça veut dire que tu es mon chef et que tu me protèges. Protégé comme le fils prodigue qui disait à son père « Traite-moi comme un de tes ouvriers ». Pourquoi il a dit cela? En sachant que les ouvriers de son père sont bien traités. Ils mangent bien, c'est ça ce qu'il a dit. Ils avaient un toit sur leur tête. C'est ça le sens de esclave ici. Que je sois sous ta protection. Alors, n'ayons pas peur, n'ayons pas honte de proclamer « Tu es mon maître, tu es mon Seigneur ». Et moi, je garderai toujours ma Bible qui utilise le mot « Seigneur », même s'il y aura d'autres versions qui vont essayer de changer cela, parce que, paraît-il, ce n'est plus adéquat à la vie d'aujourd'hui. N'aie pas honte de proclamer Jésus-Christ comme ton Seigneur. Amen.